Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Si je commence à bafouiller dès la première phrase de l'émission, c'est que c'est mal parti. Je vous préviens tout de suite. Je suis désolé. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine. Le 26 avril, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Ça a été établi en 2001. Donc voilà, tout ce qui est brevet, tout ce qui est propriété intellectuelle, dépôt de marque, toutes ces choses-là, eh bien, c'est une journée mondiale qui est consacrée à la propriété intellectuelle. C'est bon à savoir. Une fois placé dans une conversation ce soir, on peut dire, tiens, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée de la propriété intellectuelle. Il dirait, alors, qu'est-ce que ça peut me faire ? Oui, effectivement, si vous voulez. Mais bon, ça peut être intéressant pour notre propre culture et notamment pour notre culture scientifique. Sachez que le 26 avril 1962, c'est l'impact de la sonde Ranger 4 qui s'est donc crashée entre guillemets, cette sonde, sur la face cachée de la Lune. En 1962, on a été envoyé cette sonde et on a dit, tiens, on va la faire cracher du côté de la face cachée de la Lune. C'était quand même assez intéressant à l'époque. Plus récemment et plus dramatique, le 26 avril 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En 86, on va célébrer les 40 ans l'année prochaine, en fait. C'est quand même assez troublant, bien sûr. Naissance d'Alfred Krupp, le 26 avril 1812, inventeur sidérurgiste prussien. Il fit de l'usine Friedrich Krupp, aujourd'hui, elle existe encore, propriété de la multinationale ThyssenKrupp. C'est l'une des premières entreprises d'Europe. Il va amorcer, Alfred Krupp, cette spectaculaire croissance en se lançant dans la fabrication de roues monoblocs qui vont connaître un succès foudroyant sur le marché en pleine croissance des locomotives. Mais c'est surtout dans l'industrie de l'armement que sa compagnie va se hisser au premier rang. Alfred Krupp, Krupp ou Krupp, je ne sais pas, Krupp, c'est R-U-P-P, Krupp, je pense. Je ne suis pas du tout bon en langue allemande, si j'ai une mauvaise prononciation, je m'en excuse. En tout cas, Alfred Krupp, lui, il devient le plus gros producteur d'armes de son époque et ça lui vaut le surnom de roi du canon, le Kanonenkönig. Pour ceux qui maîtrisent très bien la langue germanique. Tout au long de l'évolution de l'entreprise, il y a de nombreux salariés qui vont rejoindre l'usine. On y retrouve des forgerons, des potiers et bien d'autres métiers de travaux manuels. Et donc, cette entreprise a pris son essor au moment où Alfred Krupp était à la tête de cette entreprise. Il est donc né un 26 avril 1812. Décès le 26 avril 1946 de Louis-Alphonse Bachelier. C'est un mathématicien français. Il est le précurseur de la théorie moderne des probabilités. Il est le fondateur des mathématiques financières. On a créé, pour lui rendre hommage, le prix Louis Bachelier, le prix européen de mathématiques appliquées, qui couronne des contributions majeures à la modélisation mathématique en finance et au contrôle des risques financiers. Il est donc décédé le 26 avril 1946, ce mathématicien français. J'avoue que je ne connaissais pas le nom de Louis Bachelier. Mais voilà, ça nous permet, avec cet éphéméride, de connaître un petit peu parfois l'histoire des sciences et des techniques. C'est assez intéressant. Biotine, donc, tous les samedis, c'est entre 12h et 13h, et tous les mardis matins à 10h pour la rediffusion. Eh bien, nous feuilletons comme ça la revue presse de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de sites internet qui sont assez intéressants. Moi, je recommande surtout Futura Science, parce que les articles sont écrits d'une façon vraiment abordable et illustrée. Et ça permet aussi d'avoir des thématiques assez variées qui nous permettent de nous tenir un peu informés de ce qui se passe au niveau de l'avancée de la recherche en science avec un S dans tous les domaines scientifiques, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi des revues de vulgarisation scientifique, Sciences et Avenir, Sciences et Vie, et puis après un petit peu plus spécialisé si vous aimez l'espace, si vous aimez la mécanique, si vous aimez la biologie, vous avez pas mal de choses qui existent. Et puis également pour un public plus jeune, il y a quand même aussi vraiment des choses très très intéressantes qui sont proposées, qui sont disponibles. Et donc, pour cette émission, je pioche un petit peu dans ces sources d'informations vraiment intéressantes pour essayer de concocter une petite revue de presse de l'actualité scientifique. Et je voulais évoquer, mais il y a déjà deux semaines que j'ai cet article sous le coude et que je n'ai pas encore eu le temps d'évoquer, c'est la fin peut-être des tests cosmétiques sur les animaux. Depuis 2013, la réglementation européenne interdit les tests sur les animaux, ainsi que la commercialisation de produits qui ont fait l'objet de ces tests. Toutefois, il y a des entreprises qui peuvent toujours financer ces expérimentations dans d'autres pays, comme par exemple la Chine. Et selon le groupe Human World for Animals, un groupe qui lutte contre les tests en laboratoire, on estime à environ 500 000 animaux qui souffrent ou meurent chaque année à cause des tests cosmétiques à travers le monde. On ne parle pas de recherche scientifique. On parle de tests cosmétiques, là, précisément. Quand même 500 000 animaux qui sont concernés, c'est quand même assez important. Et face à ces préoccupations, il y a de nombreux chercheurs qui s'efforcent de trouver des alternatives qui permettraient de tester la sécurité des produits sans infliger de souffrance animale. Et donc, dans cette optique, il y a une équipe de chercheurs de l'Université de technologie de Graz et aussi de l'Institut de technologie de Vellor qui a entrepris de développer un matériau artificiel qui pourrait imiter la structure et les propriétés mécaniques de la peau humaine. C'est ça qui est vraiment intéressant. Elle est ainsi composée de couches d'hydrogel imprimées en 3D qui sont liées à des cellules humaines vivantes. L'idée, c'est de pouvoir simuler notre peau de manière totalement réaliste. Toutefois, la réalisation de ces substrats n'est pas une tâche simple. Les couches d'hydrogel doivent pouvoir interagir avec les cellules vivantes de la peau. Ces cellules doivent non seulement survivre, mais aussi être capables de croître et de se multiplier. C'est ce qui est explique notamment Karine Klenchek qui fait partie de ces équipes de recherche. Pour que la peau artificielle soit considérée efficace, eh bien les cellules cutanées, les cellules de la peau, doivent survivre pendant 2 à 3 semaines en culture, c'est quand même assez important, et développer, donc, de pouvoir développer de la peau, des tissus cutanés. Et l'équipe a rapporté des premiers résultats prometteurs, notamment dans un article qui a été publié dans la revue Star Protocols. Alors, malheureusement, ces modèles de peau sont encore au stade expérimental, c'est-à-dire que les tests sur les animaux, ils sont encore aujourd'hui un recours pour certaines entreprises. Malgré les avancées scientifiques et les interdictions que l'on a au niveau international, mais cette situation, elle pourrait peut-être s'améliorer si des alternatives comme celle-ci s'avère efficace, parce que le développement de méthodes alternatives, ça a été accéléré justement avec ces restrictions, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces solutions deviennent la norme et remplacent les tests cosmétiques animaux. Et pour que ces technologies s'imposent globalement, il est nécessaire de continuer à investir dans la recherche, d'améliorer leur fiabilité et de rendre leur adoption plus économique. Bien sûr, derrière toujours une question d'argent, est plus accessible aussi. Mais donc voilà, c'est une question. Est-ce qu'on assiste à la fin des tests cosmétiques sur les animaux ? Eh bien, cette peau imprimée en 3 dimensions pourrait tout changer. Affaire à suivre, bien sûr. C'est assez fascinant, assez intéressant et assez utile, bien sûr. Et puis la semaine dernière, je n'avais pas eu le temps non plus d'évoquer cette avancée scientifique qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Il y a des chercheurs qui viennent d'annoncer la résurrection du loup terrible Canis dirus, qui est connu sous le nom de Dire Wolf en anglais. C'est le loup géant, entre guillemets. Hein. C'est une prouesse génétique qui a été réalisée par la société de biotechnologie Colossal Biosciences, qui a conduit à la naissance de 3 louveteaux qui portent des noms un peu évocateurs, hein, parce qu'on les a appelés les 3 Romulus, Remus, ok, très bien, et Khaleesi également, hein, pour ceux qui suivent Game of Thrones, ça doit sûrement vous dire quelque chose. Ils sont donc ces loups plus gros, plus robustes que les loups actuels. Le loup terrible, hein, le loup du Pléistocène, le loup sinistre, c'est un petit peu ses différents noms, il a disparu il y a environ 13 000 ans. Et le faire revenir à la vie ne s'annonçait donc pas chose facile, mais on a extrait de l'ADN qui était bien conservé dans des fossiles vieux de 13 000 ans et de 72 000 ans. On s'est appuyé sur des techniques d'édition génétique et les chercheurs, ils ont pu modifier le génome de loups gris moderne afin d'y intégrer les caractéristiques génétiques de ce fameux loup terrible Canis dirus. Les embryons ainsi créés ont été implantés dans des mères porteuses qui aboutit à la naissance des deux louveteaux mâles, c'était en octobre 2024, et de leur petite sœur 4 mois plus tard. Et cette réalisation, elle marque une étape majeure dans le domaine de la désextinction des espèces. Mais bien sûr, ça soulève comme à chaque fois des questions d'ordre éthique et scientifique. D'abord, il convient de noter que ces loups ne sont pas en réalité de véritables loups sinistres, hein, bien qu'ils partagent certaines caractéristiques génétiques avec les loups du Pléistocène. Et bien, il s'agit davantage d'une reconstitution que d'une véritable résurrection de l'espèce disparue. Ensuite, si les partisans de cette technologie y voient une opportunité de restaurer des espèces perdues et de renforcer la biodiversité, il y a quand même d'autres personnes qui s'interrogent sur les implications morales d'une telle démarche. Bien sûr, une espèce disparue ne devrait-elle pas, après tout, être laissée dans le passé ? C'est une vraie question. Et donc, pour cette entreprise de biotechnologie Colossal Biosciences, elle parle notamment des récentes souris laineuses. On en a parlé la semaine dernière, je crois, dans cette émission, il y a 15 jours, où on avait créé des souris laineuses, où on avait mis des gènes du mammouth laineux. Et donc, on a des souris qui ont une espèce de poil angora. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on en avait parlé. Eh bien, quand on voit ce que l'on fait sur des souris, pourquoi ne pas faire des choses avec les loups, hein ? Donc, la question ne se pose plus pour cette entreprise. Notre équipe est fière de redonner aux loups sinistres la place qui lui revient dans l'écosystème. C'est ce qu'on explique dans le... Enfin, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse. Et donc, avec des projets ambitieux comme la réintroduction du mammouth laineux, donc ça on a évoqué, du tigre de Tasmanie et du dodo également, et bien les frontières de la science semblent être leur seule limite. Évidemment, c'est comme à chaque fois qu'on évoque ces sujets-là, il y a toujours quelque part, et c'est totalement normal, des questions d'ordre éthique. Mais ça, on ne l'évoque pas toujours, malheureusement. Vous écoutez Biotine, l'émission qui vous parle de l'actualité scientifique, mais qui ponctue parfois aussi son émission avec quelques petites musiques. Oui, c'est ça aussi, Biotine. Bah, on est sur graphite, hein, y a quand même un peu de musique, finalement. Subatomic particles, dark matter couldn't limit me. Blessed at the dawn of space, time, and symmetry. Destined to be formed in the belly of divinity. A symphony of celestial mechanics. Asteroid moons pulling tides across granite. Gravity sparks, fusion of interstellar parts. Exploded in the hearts of long dead stars. I was there when Mother Earth was just a daughter. Microscopic form amongst the spiders and the scorpions. I was born, I transformed all the secrets held in the double helix, waiting in genetic mutations to reveal it. Most exquisite artistry on the horizon, all the beauty and complexity of consciousness arising. Could I run? On the forest floors, eating plant forms from the cosmos, magic in the spores, vertebrae on arching, marching towards ice ages, starving in the plains, sparking up fires, carving artwork in the caves. I came through like a spear, clear as the target is for wolves and hyenas. Over animal carcasses, harness the power of the shaman and the raven as she sings. Yeah, we saw the spirit. With the poet carry freedom on our wings. Could I run?
By class, wealth stolen from the earth. I'm the seed of all the witches they burned. Recognize my body as a site of patriarchal control. Reclaim myself, the one thing they can't touch is my soul. The whole of history is where my story begins. A moment in time and the birth of all things.
Howl, c'était She Drew the Gun sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h et on feuillette comme ça ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Alors je trouvais cet article, en tout cas le titre, assez intéressant. Pouvoir nourrir la planète sans engrais chimiques, et bien des chercheurs ont peut-être trouvé la clé. C'est cet article de Futura qui nous explique que l'utilisation excessive d'engrais chimiques constitue aujourd'hui, on le sait, l'un des principaux défis de l'agriculture moderne. Et face à cette problématique, il y a des scientifiques britanniques de Norwich qui viennent de réaliser une avancée significative, une découverte qui date de février, qui pourrait considérablement réduire notre dépendance aux fertilisants artificiels tout en préservant les rendements agricoles. Le mécanisme identifié permet aux plantes d'optimiser leurs interactions avec les micro-organismes du sol, ce qui ouvre donc la porte à une agriculture plus durable. La clé en fait de cette percée, elle réside dans un processus appelé endosymbiose où deux organismes vivent en relation mutuellement bénéfique. Myriam Charpentier, dont l'équipe a mené ses recherches justement sur ce sujet-là, explique « Nous pouvons désormais envisager de développer un nouveau type d'agriculture respectueuse de l'environnement avec des cultures nécessitant moins d'engrais artificiels. » En fait, les scientifiques ont identifié une mutation génétique dans une légumineuse qui s'appelle Medicago truncatula, qui améliore en fait significativement ses partenariats avec les bactéries, les champignons qui ont là dans le sol. Et ces micro-organismes, ils vont fournir aux racines l'azote et le phosphore qui est essentiel à la croissance de la plante. Et l'aspect révolutionnaire de cette découverte est que cette même mutation génétique, lorsqu'elle est présente dans le blé, elle engendre des bénéfices similaires en conditions réelles de culture. Cette symbiose naturelle, elle permet aux plantes un petit peu de récupérer de façon efficace les nutriments dans des sols pauvres, ce qui réduit ainsi la nécessité d'apports extérieurs sous forme d'engrais. Et dans les milieux agricoles intensifs, l'utilisation massive de fertilisants, bien ça perturbe ces interactions naturelles entre les cultures et les microbes. Et donc c'est un cercle un peu vicieux que ces découvertes pourraient aider à briser. En fait, l'usage excessif d'engrais chimiques, ça entraîne de nombreuses conséquences environnementales désastreuses. La dégradation des sols, ça constitue l'un des problèmes majeurs, mais aussi les ruissellements depuis les champs qui provoquent également une pollution importante des cours d'eau. Et donc ces déversements, ça va favoriser la prolifération d'algues qui vont se former à la surface de l'eau, qui vont former un petit peu comme des genres de petites nappes, et ça va priver l'écosystème aquatique d'oxygène, ça va entraîner la mort des poissons et d'autres organismes. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place. Et donc cette recherche de cette équipe britannique offre une alternative prometteuse en permettant de développer des cultures capables d'exploiter de façon plus efficace les ressources nutritives qui sont présentes naturellement dans le sol. Et c'est ce que souligne justement le docteur Charpentier. Cette découverte présente un grand potentiel pour faire progresser l'agriculture durable, parce que la perspective de réduire tous ces produits chimiques tout en maintenant des rendements satisfaisants, eh bien ça représente une avancée considérable pour concilier une production alimentaire et la préservation de l'environnement. Alors l'un des aspects les plus encourageants de cette innovation, elle réside dans sa facilité potentielle d'adoption, parce que l'équipe de recherche précise que cette découverte est créée dans une variété de blé non OGM. Et donc cette caractéristique, elle signifie que les sélectionneurs peuvent utiliser des méthodes traditionnelles d'amélioration végétale pour développer des variétés qui posséderaient ce justement cet avantage. Et les résultats de ces travaux qui ont été publiés récemment dans la revue Nature, eh bien, ces résultats suscitent bien sûr un vif intérêt dans la communauté scientifique et agricole. Et en conséquence, eh bien, ces travaux ouvrent la voie à l'utilisation d'agents endosymbiotiques comme étant des alternatives naturelles par rapport aux engrais inorganiques pour les principales cultures alimentaires mondiales. C'est véritablement une percée assez intéressante qui pourrait contribuer de façon vraiment significative à transformer notre système agricole vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, tout en répondant aux besoins alimentaires d'une population mondiale qui est bien sûr croissante. Et donc, c'est une révolution agricole silencieuse mais profonde qui apparemment se mettrait en place, qui serait basée sur une meilleure compréhension et une utilisation des processus biologiques naturels. C'est vraiment intéressant, on en est au début, mais en tout cas, ça donnerait une perspective totalement révolutionnaire pour pouvoir produire autant, voire mieux, mais surtout en n'utilisant pas d'engrais. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur des fondamentaux assez bluffants, bien évidemment. Et donc, c'est cette équipe britannique qui a travaillé sur ça, et l'article publié dans la revue Nature, bien sûr, ça a fait pas mal parler, et ça risque de faire pas mal parler, bien évidemment. On aura, je pense, l'occasion assez prochainement de revenir sur ce sujet parce qu'on aura sûrement un petit peu plus de précision et d'avancée sur ça.
Jean-Noël Moreau, Biotine.
Et si on parlait des requins, en fonction de la région et de la saison, lorsque la température de l'eau se réchauffe, eh bien, il y a certaines espèces de requins qui entreprennent de longues migrations dans le but, bien sûr, de se reproduire, de se nourrir et de mettre bas. Eh bien, les conséquences d'un réchauffement trop brutal ou prématuré dans les cycles saisonniers des requins, ces conséquences peuvent entraîner des changements de comportement, mais aussi les pousser à découvrir de nouveaux habitats dans lesquels les requins ne s'aventuraient pas auparavant. Explorer de nouvelles zones, un petit peu de nurserie entre guillemets, avec peut-être l'idée de se rapprocher des côtes. C'est l'une des observations qui a été prouvée scientifiquement. Il est commun chaque printemps et début d'été d'observer des requins bleus ou des requins taupes bleus, qu'ils soient jeunes ou adultes, échouer aux abords des plages de la Méditerranée en France. La destruction de leurs habitats liée à l'augmentation de la température de l'eau, ça peut entraîner la fuite de leurs proies ou un déplacement anormal de ces proies. Et donc, ça va pousser les requins à se déplacer également pour pouvoir se nourrir ou trouver de nouvelles zones de vie. Et donc, on observe plus fréquemment des requins dans les environs de l'embouchure du Rhône, là où se nourrissent leurs proies naturelles, qui sont les thons. Et la plupart des requins sont des poissons à sang froid. Et donc, une augmentation ou une diminution trop importante de la température de leur habitat, ça peut causer des troubles physiologiques irréversibles et mortels pour les requins. Ils se déplacent donc dans des environnements moins dangereux et parfois proche des côtes. Et il est sans conteste que ces dérèglements climatiques vont confronter beaucoup plus régulièrement les hommes et les requins. Est-ce qu'on va réussir à cohabiter avec eux, avec l'image que les requins ont depuis le film de Spielberg? Ça va être assez compliqué. Mais c'est assez récent, voilà, c'est une constatation assez récente de ces requins qui pourraient envahir nos côtes à cause du réchauffement climatique. C'est assez troublant, bien évidemment. Comme on parle de poissons, il y a cette étude assez intéressante qui nous parle du poisson clown. Il y a un nouvel aspect du mutualisme qui va unir le poisson clown à son anémone de mer, qui vient d'être mise en évidence par des chercheurs de l'université d'Osaka au Japon. On savait déjà que ces fameuses anémones offre à ses poissons un refuge urticant et que ceux-ci chassent en retour les organismes qui grignotent justement ces anémones. Donc quelque part, ils sont d'accord l'un et l'autre. Et la nouvelle étude montre que les poissons clowns fournissent aussi de la nourriture à leur anémone en attachant aux tentacules de l'anémone, je vais y arriver, des palourdes qu'ils ne peuvent pas manger. Et pour la nourriture plus petite, eh bien, ils se rassasient d'abord avant de leur donner les restes. Toujours cette phrase, en fait, dans le film des Visiteurs, et Boulotron on reste. Et bien là, c'est pareil, le poisson clown, il mange, il a des restes qu'il donne à l'anémone. Et en nourrissant son anémone, eh bien, le poisson contribue en effet à la croissance de celle-ci. Or, il a été montré que le nombre d'œufs pondus par certaines espèces de poissons clowns est corrélé à la taille de leur hôte. Et donc, une anémone de mer bien nourrie, elle assure aussi aux poissons clowns une descendance prospère. Donc voilà, ils se mettent d'accord tous les deux. Et c'est une nouvelle étude qui montre que ce poisson fournit de la nourriture à l'anémone de mer qui lui assure donc une plus grande dépendance. Chacun a trouvé chaussure à son pied. C'est pas mal finalement. Ils sont d'accord. S'ils sont tous d'accord, c'est tant mieux. Allez, un peu de musique sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et on va parler de Toutankhamon juste après. Thank you.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
C'était Fly Away avec Soul Sugar sur l'antenne de... Oui, le titre c'est Fly Away, le groupe c'est Soul Sugar sur l'antenne de Graphite. Je vais y arriver, pardon, vous écoutez Biotine tous les samedis. Entre 12h et 13h, je vous ai dit en début d'émission que je bafouillais la première phrase, c'était mal parti. Il reste encore une demi-heure, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. On écoute donc ensemble Biotine sur l'antenne de Graphite et on va parler de Toutankhamon. Tous les secrets du tombeau de Toutankhamon ne semblent pas avoir été découverts. Lors de l'ouverture de la sépulture, il y a un peu plus de 100 ans, en 1922, il y a de nombreux artefacts qui étaient collectés par les équipes d'Howard Carter et de ses successeurs. Et plus de 100 ans plus tard, des universitaires se penchaient sur les trouvailles réalisées sur le site KV62. 4 pots d'argile disposés dans la sépulture, ça suscitait l'interrogation des spécialistes. Et il y a quelques semaines, fin février, paraissait dans le journal The Journal of Egyptian Archaeology une synthèse d'études élaborant des hypothèses quant à la présence de ces étranges objets dans le tombeau et puis leur utilité. Les égyptologues évoquent une possibilité, le rituel funéraire aurait pu servir à invoquer le dieu Osiris, particulièrement célébré au panthéon des divinités égyptiennes antiques. En faisant l'inventaire des objets exhumés lors de l'exploration de la tombe du célèbre pharaon, les spécialistes se questionnaient sur la présence de ces 4 pots. Ils avaient pour vocation à recueillir du liquide. Et donc les égyptologues ont rapidement fait le rapprochement avec le processus de libation. En disposant des jarres ou des pots qui contiennent de l'eau ou d'autres liquides, comme par exemple du lait, des huiles, du vin, eh bien les prêtres élaboraient une forme d'offrande aux dieux anciens. Et en parallèle, 4 sceptres se trouvaient aussi dans le tombeau. Et pour les historiens, la disposition de ces artefacts autour de la momie du pharaon renvoie aux points cardinaux. Et l'idée, c'est d'établir une protection optimale pour le défunt lors de son passage dans l'au-delà. Certains y voient un parallèle avec des rituels exercés autour du dieu roi Osiris. Dans la mythologie, ce roi est considéré comme un roi de la terre, une divinité bienveillante partageant avec les mortels son savoir et sa sagesse. Et selon la légende, Osiris a été assassiné par son frère Seth et devant sa sépulture, son fils Horus aurait utilisé un sceptre pour le ramener à la vie. Donc une occurrence illustrée dans le tombeau de Toutankhamon par la présence donc de ces mêmes artefacts. Alors, s'est-il produit un processus similaire sur le site KV62 au cœur de la Vallée des Rois ? C'est un problème de taille qui demeure. Les archéologues n'ont pas observé de rituels similaires dans les tombeaux d'autres récents égyptiens. La mort de l'un des plus célèbres pharaons du royaume aurait occasionné la création d'un rite bien précis, mais dans quel but ? L'objectif était-il d'assurer la protection d'Osiris lors du passage de Toutankhamon dans l'au-delà ? Ou ses fidèles avaient-ils pour intention de le ramener à la vie ? Eh bien, l'incertitude demeure, on n'en sait toujours rien, mais les spécialistes affichent désormais une certitude. Par contre, c'est que les artefacts de la tombe de Toutankhamon n'étaient pas que de simples offrandes. Il y aurait donc un rituel interdit peut-être pour ressusciter un dieu, mais c'est un mystère encore concernant ces 4 jarres dans la tombe de Toutankhamon. 100 ans après la découverte de ce tombeau, c'est quand même assez intéressant. On en est encore dans les spéculations aujourd'hui. On va revenir, j'allais dire revenir sur Terre, pas du tout, parce qu'on va partir dans l'espace. La Chine a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle feuille de route ambitieuse dans le domaine de l'exploration planétaire, axée sur l'habitabilité et la recherche de vie extraterrestre. Il y a plusieurs missions qui ont été présentées à destination de Mars, de Vénus, de Jupiter et de Neptune, ce qui élargit ainsi les horizons de l'exploration spatiale chinoise. Cette information a été communiquée via un tweet sur le réseau social X. C'était relayé par les médias chinois et ultérieurement, c'était repris par le journaliste André Jones dans un article sur le site internet Space News. En fait, cette feuille de route, elle témoigne de l'intention de la Chine de s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine de l'astrobiologie. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus vaste pour établir une présence soutenue dans l'espace et pour étendre ses capacités technologiques. Alors, parmi les missions qui ont déjà été confirmées, la plus imminente, c'est Tiawen 3 ou Tiawen 3 à destination de Mars. En fait, ça pourrait donner le coup d'envoi à un retour d'échantillons martiens prévu pour fin 2028. Quand même assez fascinant et assez proche. Et elle se concentrera sur la recherche de formes de vie éteintes ou de formes de vie en activité sur Mars. Très intriguant. En 2029, donc l'année d'après, la mission Tianwen 4 sera lancée à destination de Jupiter. L'idée, c'est d'étudier Callisto autour duquel elle pourrait se satelliser. Quand même assez fascinant. En parallèle, il y a une mission prévue pour 2033 qui visera à collecter des particules de l'atmosphère de Vénus. Vénus qui pourrait abriter des molécules organiques. L'idée, c'est de les ramener sur Terre afin d'étudier le micro-environnement atmosphérique de cette planète. Et puis un peu plus tard, quand même, à l'horizon 2039, il y a une mission à propulsion nucléaire vers Neptune qui est envisagée pour explorer son anneau, son atmosphère et la lune Triton, tout en cherchant des mondes océaniques potentiel caché sur cette lune. 2039 quand même, hein, c'est quand même pas pour tout de suite, mais en tout cas la Chine est assez ambitieuse. La Chine qui prévoit de développer en outre des missions habitées vers Mars avec l'ambition d'installer une station de recherche sur la planète. Cette station sera axée sur l'utilisation des ressources in situ et la conduite de recherches environnementales et biologiques à long terme avec un objectif de mise en œuvre prévu pour 2038, donc dans 13 ans, donc c'est quand même pas si long que ça dans l'échelle de la technologie spatiale. La Chine souhaite également construire sur Terre des installations capables de simuler des environnements planétaires habitables, ce qui servira à mieux préparer des missions robotiques et des missions habitées. C'est un programme donc ambitieux qui n'est pas sans défi. La Chine devra franchir plusieurs obstacles technologiques, notamment en matière d'énergie nucléaire pour ses missions lointaines. Des difficultés subsistent de toute façon également en ce qui concerne la communication dans l'espace lointain, la protection planétaire, ce qui rend la mise en œuvre de ces projets d'autant plus complexe. C'est un vrai défi là que la Chine s'impose. Et dans ce contexte d'acquisition de nouvelles technologies, il est probable que la Chine cherchera à établir des partenariats internationaux sur certaines missions, surtout celles nécessitant des technologies spécifiques ou des instruments très avancés. Et donc cette ouverture vers l'international pourrait non seulement renforcer ses capacités, mais aussi favoriser un échange de connaissances qui pourrait profiter à l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Voilà donc la Chine qui pourrait finalement doubler la NASA dans la recherche de la vie à travers le système solaire. Une Chine qui affiche ses ambitions dans la recherche de mondes habitables dans le système solaire. C'est donc cet article de Futura qui nous présente les ambitions de la Chine. Je vous l'ai dit, cette décennie 2020 va être vraiment fascinante. Là, on en est à peu près à la moitié de la décennie. On commence maintenant à voir les perspectives concrètes qui sont prévues pour la décennie 2030 maintenant. Mais il y a vraiment des choses qui vont être fascinantes à évoquer dans cette émission dans les prochains mois. Précisément, à partir de la fin de l'année, ça démarre, et l'année prochaine également, avec les Américains aussi qui ont promis pas mal de choses. Voilà, c'est toujours un petit point spatial dans cette émission, parce que, je sais pas, je trouve ça assez fascinant et d'un point de vue technologique, bien évidemment. Allez, on va écouter Pretty Planet. Comme on est dans l'espace, c'est Bobby Lou sur l'antenne de Graphite. Consider it like a bee making his honey. It's basically the same. Oh, I'm gonna sip, sip every drip that falls down from your salty brow. And I'm gonna dip, dip all my bread into the head of a cash cow. Will you be my cash cow? We'll be right back. Pretty Planet, c'était Bobby Lou sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique sur le 94.9. Hein, vous nous écoutez sur la bande FM hein, dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et graphite.net, bien sûr le site internet partout où que vous soyez, quand vous le souhaitez, vous pouvez télécharger tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr. On revient sur l'actualité scientifique et on va parler un petit peu de tout ce qui est recyclage. Parce que face aux consignes de tri, il y a parfois de quoi perdre son latin, d'autant qu'une consigne de jeter, par exemple, un emballage dans la poubelle jaune, ça ne veut pas nécessairement dire que cet emballage est recyclable, ou encore moins que cet emballage sera recyclé. Alors, Futuration, ça fait un article un petit peu récapitulatif pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur tout ce recyclage de nos objets du quotidien. Selon les chiffres de l'ADEME, c'est l'agence de développement et de... l'agence de défense de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, je dis ça de mémoire, 1,5 million de tonnes de déchets textiles non réutilisables sont jetés chaque année en France. C'est quand même énorme. Hein. Aujourd'hui, seulement 152 tonnes sont collectées et à peine 110 000 tonnes sont finalement recyclées. Mais pas vraiment parce que les autres ne sont pas recyclables. La difficulté vient d'abord du fait que pour être recyclés, les vêtements doivent être déposés dans les points de collecte qui sont prévus pour cela. Ce qui n'est pas clairement toujours suffisamment le cas en France. Mais la difficulté vient aussi du fait que nos textiles sont souvent constitué d'un mélange de matières, un mélange qui rend le recyclage infiniment plus complexe et donc plus onéreux, bien sûr. Ce qui serait le cas pour environ 30% des déchets textiles non réutilisables, auxquels on peut ajouter les plus de 15% dont la composition reste totalement inconnue. Et la solution qui a longtemps prévalu, c'est celle du sous-cyclage, le downcycling, qui consiste pas à régénérer un tissu utilisable par l'industrie du textile, mais à produire à partir des fibres qui sont broyées, des rembourrages, par exemple, pour des matelas. Par exemple, c'est ce qui est mis en place. Et face aux enjeux environnementaux, les chercheurs se sont mobilisés et ils ont trouvé d'autres solutions. Il y a des pilotes qui testent actuellement des manières de séparer de façon automatisée les composants d'un manteau en laine, par exemple, la doublure en nylon d'un côté, la garniture synthétique de l'autre. Il y a des technologies qui permettent même de trier les matériaux des vêtements usagés et d'en tirer des fibres assez longues pour fabriquer de nouveaux tissus, moyennant tout de même encore quelques apports de fibres vierges. L'autre démarche que développent les chercheurs, c'est celle de l'éco-conception, parce qu'il reste indéniable que des pulls 100% polyester, acrylique ou polyamide, tout comme 100% coton, seraient bien plus facilement recyclables, sauf que ce n'est pas le cas. Pas toujours. Il y a des fabricants comme Adidas ou Nike qui commencent d'ailleurs à proposer des chaussures qui ne sont plus composées que d'une seule matière, parce que c'est une chose que la science sait faire, et grâce à des mises en forme différentes, eh bien un matériau peut aujourd'hui être façonné aussi bien comme une mousse que comme un tissu. Pour rappel, l'État français a fixé à la filière textile un objectif de 90% de recyclage des fibres synthétiques d'ici fin 2027 quand même. Alors, prenons un exemple, le cas des pots de yaourt. Chaque année, il y a plusieurs milliards de yaourts en pot qui sont consommés en France. Des centaines de ces pots sont jetés chaque seconde. Des pots le plus souvent en polystyrène. Et on peut lire ici ou là que le polystyrène ne se recycle pas, ce qui est à la fois vrai et faux. Vrai parce que beaucoup de ces pots de yaourt finissent encore dans la poubelle des déchets ménagers. Ils seront alors soit enfouis, soit incinérés. D'où l'idée d'un groupement des industriels des produits laitiers de lancer il y a quelques semaines une nouvelle campagne de sensibilisation par le biais d'un message simple et direct qui est apparu au dos des opercules de certains pots de yaourt, du genre, par exemple, pensez à me trier, ou alors je vais dans le bac jaune sans être lavé, ou ainsi de suite. Car quoi qu'en disent certains, ce qui bloque réellement en matière de recyclage des pots de yaourt, c'est la collecte. D'autres produits en polystyrène sont d'ailleurs déjà très bien recyclés aujourd'hui, comme les mousses de calage ou les chips d'emballage, hein, parce que le gisement était assez important pour qu'une filière économiquement intéressante se développe, bien évidemment. Il y a très souvent derrière un sujet purement économique. Techniquement ou scientifiquement parlant, le pot de yaourt est désormais tout à fait recyclable. Il peut être broyé puis fondu, on parle alors de recyclage mécanique. Mais le polystyrène perd alors de ses propriétés. Il ne peut plus être utilisé pour conserver de la nourriture et se transforme en pare-chocs de voiture, par exemple en cintre ou également en pot de fleurs. Le recyclage chimique par chauffage à plusieurs centaines de degrés, lui, ça permet de revenir aux molécules, la molécule de styrène qui est autrement produite à partir du pétrole, et ça permet de reformer un nouveau pot de yaourt. L'ennui, c'est que la méthode est encore coûteuse. Une solution pour la rendre plus intéressante d'un point de vue économique, ça serait justement d'augmenter les volumes. Et donc il y a une usine qui existe toutefois du côté d'Anvers en Belgique. Elle recycle, cette usine, les pots de yaourt par pyrolyse, et elle traite 8 de ces pots récoltés en France sur 10. Il y a d'autres usines qui devraient beaucoup atteindre les performances souhaitées sur notre territoire également prochainement. Notons que les industriels se sont également engagés dans une démarche d'éco-conception. Pour faciliter le recyclage, ils comptent proposer bientôt des pots de yaourt avec 98,5% de polystyrène. Et il y a une PME qui s'appelle Plastic Ventanat à Barbezieux qui a déjà été récompensée d'un prix de développement durable pour son travail sur un pot de yaourt entièrement en polystyrène. Alors que la France paye à l'Europe 1,5 milliard d'euros chaque année pour non atteindre de ses objectifs de recyclage des matières plastiques, en période de dette, c'est quand même assez effrayant de voir ça, la France vise désormais, d'ici 2026, donc d'ici l'année prochaine, le recyclage de 10 000 tonnes de polystyrène, moins de 10% du volume total des pots de yaourt quand même. Mais bon, pourquoi pas, vaut mieux ça qu'autre chose. Autre cas, le cas des pales des éoliennes. Ceux qui veulent s'opposer au développement massif des éoliennes ont, semble-t-il, trouvé un argument assez intéressant, c'est que les pales des éoliennes ne se recyclent pas. Il est vrai qu'elles sont faites de matériaux composites, et donc le mélange de matériaux, comme on l'a dit, ça complique effectivement les possibilités de recyclage. La résine qui est utilisée, une résine époxy qui est intimement mêlée à des fibres de carbone, ça apporte aux pales à la fois de la robustesse et de la légèreté, donc c'est intéressant d'un point de vue technique, mais pour les professionnels du recyclage, ça ressemble totalement à un enfer, parce que les techniques existent pourtant depuis plusieurs années, mais elles sont peu respectueuses de l'environnement, elles sont très gourmandes en énergie, puis elles coûtent cher aussi. Il y a différentes initiatives de chercheurs et d'industriels qui ont permis de débloquer la situation en suivant deux pistes distinctes, celle de l'éco-conception d'abord, une pale d'éolienne en thermoplastique. Thermoplastique, ça veut dire que sous l'effet de la chaleur, ça va ramollir. Et en fibre de verre, cette pale est en attente de validation. Le parc éolien en mer du Calvados comportera quant à lui plusieurs pales recyclables produites notamment par Siemens, qui est une première en France. Il y a un fabricant danois qui s'appelle Vestas de son côté qui s'est attaqué au problème assez particulier du recyclage des pales existantes qui sont fabriquées en plastique thermodurcissable. Et donc ce fabricant a mis au point un procédé chimique qui permet de décomposer les matériaux pour produire de nouvelles pales ou d'autres objets. Donc c'est aussi assez intéressant. Et dans un laboratoire toulousain du CNRS, il y a un projet qui a obtenu le même type de résultat. C'est une méthode de recyclage chimique à base de produits non toxiques et à faible coût. Alors si ça coûte moins cher, c'est intéressant. Et ça permet de récupérer des fibres de carbone démêlées dont les propriétés structurales atteignent 90% du sel du matériau initial, donc c'est quand même assez intéressant. Mais ça permet aussi de récupérer cette fameuse résine également, époxy, et le tout en une seule réaction, donc c'est quand même assez bien de pouvoir quelque part différencier ces deux éléments qui constituent les pales des éoliennes. Reste à rendre cette méthode de recyclage opérationnelle sur des dimensions ou sur des quantités qui permettraient de traiter des pièces d'avion ou des pales d'éoliennes, parce que pour l'instant on l'a fait à petite échelle, donc là on sait le faire à petite échelle, maintenant il va falloir s'y mettre à grande échelle. C'est intéressant, alors que l'ADEME estime qu'il y a rien qu'en France 15 000 tonnes de ce type de matériaux composites à traiter. Donc c'est un vrai défi, et des pistes existent bien évidemment, c'est ça qui est aussi assez intéressant bien sûr. Voilà, mais bon, un pot de yaourt n'est pas nécessairement entièrement recyclable encore aujourd'hui en France, paraît-il. Allez, on écoute juste un dernier titre avant de nous quitter.
« Ashlam Natar hogam le doch twinchi na jan analyser moch linchi my tail loves hood so I wish you could do a version for him but PG send me it when you can he's your number one fan his first word we called our land so we understand all the tree cag on he's only started knee skull and be sure he just thinks you guys are lethal I know he's a wee bit young try to keep it from him down on some more yee-haw cool guard tish on my new ghost raider 40 odd breath smells like cedar try to talk business than me with jizz in your teeth back of the glider
cap is problem shoot knuckle and shans go chocolate live stick a wee tune out just for the kids cause my two ones they love you the best oh, fuck shit ways up mess word degenerate who too late to get pissed somebody smoke every pun getting off of our test test there's a no act it's just the way it is real shit
you'll find me in a snug of a dimly lit shit run down pub face all smoke in a place I love seeing how fucked I can get on government funds that's another paint done already jocks all the lore and column and up walks some random standing over me rapping one of my songs
my far short hair is problem the call not chocolate jerry a shocker and all I can't short fat and a druggy I buy this time I ride like the wheel to your wife oh here gonna minute that I call your crane a car rule toss under a hot image the blade the old hand no fuck it I rate it a 10 now you're crying on Twitter and that's a win-win
on the Nolan show today I'm Ural of a burning police car and chance of get the Brits out for this is in Ireland 2022 rapper Kneecap say the mural was unveiled as just a piece of fine art fine art
You say it needs more chucky our lads The colour if you go with last but collabs like kneecap fucking curricky call a mark So you're wondering why we take ages To release music, we're always on stages All over in different places Rockin' balaclavas on our faces
You can love us or hate us Won't affect a bit of our wages More merch, more drugs, less cops, more folks More scum, missing out on cases You can love us or hate us Won't affect a bit of our wages More merch, more drugs, less cops, more folks More scum, more
Fine art
Fine Art, c'était Kneecap sur l'antenne de Graphite. Allez, dernier article avant de nous quitter concernant l'aspirine à faible dose. La prise d'aspirine diminue le risque que le cancer se répande, ce qu'on appelle des métastases. Et c'était un tas de faits connus depuis le début des années 2010, mais personne ne savait l'expliquer jusqu'à présent. Au départ, nous n'étudions pas spécifiquement l'aspirine. C'est ce qu'explique Raoul Rochoudouri, immunologiste à l'université de Cambridge aux États-Unis, au Royaume-Uni. Pardon. Il a dirigé des travaux qui ont été publiés dans la revue Nature. À la recherche de facteurs génétiques qui permettaient de réguler les métastases dans le cancer, eh bien son équipe identifie chez la souris un gène particulier dont la perturbation dans certaines cellules immunitaires réduit la fréquence des métastases. Or, ces cellules sont un type de globules blancs notamment spécialisés dans la suppression des cellules anormales comme les cellules cancéreuses. Le lien avec l'aspirine est apparu lorsque nous avons cherché à savoir quels signaux pouvait activer ce gène dans les cellules T. C'est ce qu'explique donc ce chercheur. Cette équipe identifie alors une molécule libérée par les plaquettes sanguines qui permettent la coagulation, nommée thromboxane. Et l'aspirine est connue pour inhiber la production de cette thromboxane. Et c'est par ce biais que le médicament perturbe l'activité du gène de départ et permet donc de garder les cellules immunitaires en alerte contre les métastases. Attention toutefois à ne pas prendre de l'aspirine sans l'avis de son médecin, c'est ce qu'alerte l'immunologiste. Nos travaux n'ont pour l'instant été réalisés que sur la souris. Le moment, le dosage et la durée du traitement à l'aspirine pour prévenir les métastases chez l'humain restent incertains, c'est ce qu'il insiste. Il y a des essais cliniques qui sont en cours sur le sujet, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une piste quand même assez intéressante de cet effet anti-cancer de l'aspirine qui semble avoir été élucidé. Affaire à suivre, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Biotine de ce samedi. On se retrouve samedi prochain en direct pour une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions sur graphite.net. Bonne journée, à bientôt, au revoir.